Ok, alors c'est parti. Donc il y a Letty qui pose la question, je suis en plein diag d'un TDAH et depuis toujours je me demande comment les gens font pour aimer la routine au sens large du terme et pour rester dans un emploi pendant plus d'un an. Alors il y a Aude qui dit, je suis diagnostiquée, je perçois l'allocation adulte handicapé, je ressens beaucoup de culpabilité de ne pas travailler et en même temps je me sens incapable de gérer une vie de famille et un emploi. Je me demande si beaucoup d'entre vous ont un emploi. Avez-vous trouvé un équilibre tout en travaillant? Si vous aviez la possibilité de ne pas travailler, le feriez-vous? Bonjour, moi c'est Claire et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast La vie en pause. Tu trouveras ici mes témoignages et mes réflexions sur des thématiques variées telles que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, la neurodiversité, la douance, le syndrome d'Asperger, etc. Le développement personnel, la créativité. Autant de sujets qui, moi, me passionnent et j'espère t'apportera des réponses à toutes ces milliards de questions que tu peux te poser. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Hello! Me revoilà! Après 3 semaines, du coup j'ai pas fait de podcast la semaine dernière parce que j'étais en plein changement, vu que j'étais un mois avec mon meilleur ami que vous avez entendu dans le podcast précédent. On était en campagne et du coup on est revenu, enfin moi je suis revenue chez moi, on est resté quelques jours ensemble, elle est repartie, du coup il y a eu pas mal de changements pour moi, donc c'est le temps que je me remette un petit peu dans le truc. Et voilà, et en fait du coup aujourd'hui, en fait je vous avoue que j'avais... pas, enfin, je pensais que je n'avais pas d'inspiration pour vous créer un podcast. J'avais genre comme si j'avais épuisé un peu tous mes sujets, j'avais plus d'idées, etc. Et faux, complètement faux, parce qu'en fait, quand j'ai regardé ça un peu de plus près, c'est pas que j'avais pas d'idées, c'est que j'en avais trop. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais et c'est ce qui m'a créé une panne en fait. Une sorte de panne. En fait, il y a trop de sujets à aborder. Et j'ai noté beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'idées. C'est juste, je pense, que je ne savais pas par où commencer. Et à mon avis, je devais être noyée dans trop d'infos. Et du coup, j'avais cette sensation que j'étais vide. Alors qu'en fait, j'étais pleine. Je sais pas si ça vous arrive, ce genre de truc. Mais voilà. J'ai constaté ça au moment où j'ai fait un point. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, bah du coup, ce qui peut être pas mal, c'est... Moi, j'ai fait appel à vous, sur Instagram, sur le Telegram, sur le groupe privé. Et en fait, je vous ai demandé un petit peu quelles étaient vos questions du moment. Est-ce que vous avez des thématiques que vous voulez aborder, etc. Moi, déjà, ça m'a créé une sorte de moteur. Ça m'a aidé à redébloquer un peu tout ça. Et ensuite, après, j'ai noté et je me suis dit, mais en fait... des idées, j'en ai plein, c'est pas ce qui manque en fait. C'est juste de savoir qu'est-ce qui peut m'inspirer sur le moment, de quoi j'ai envie de parler. Et en fait là, je vais faire un podcast un peu particulier, un truc que j'ai jamais fait encore. C'est que bah, c'est ce qui m'a donné l'idée du coup. C'est en fait faire une sorte de FAQ, de foire aux questions, pour répondre à vos questions en fait. Et je pense que j'en ferai, ça pourra peut-être être un nouveau format, je sais pas trop encore si je vais le faire que maintenant ou si j'aurai envie de le faire plus tard, mais en tout cas c'est un... Alors si vous entendez le feu derrière, c'est normal. J'ai toujours mon petit feu de cheminée pour travailler. Ça m'aide tellement. Avant-hier, j'ai travaillé 9 heures d'affilée, je ne me suis même pas rendu compte. Et j'ai dit à mon ami, je dis non mais c'est pas possible. En fait... je m'en suis rendu compte au moment où j'ai vu combien de temps j'écoutais le feu sur YouTube, parce que souvent c'est des vidéos de 10 heures. Bref, et du coup j'avais écouté 8h43 pour être précis. Je me suis dit oulala, donc j'étais super focus parce qu'en fait j'étais vraiment dans quelque chose qui m'a plu, qui m'a passionnée. Bon, voilà. Donc c'est, pour moi c'est pas du travail. Même si c'est en rapport avec la vie en pause, au final c'est pas du travail. C'était vraiment du plaisir. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, le feu de cheminée. Ok, bon, je me suis auto-coupée. Donc, qu'est-ce que je disais Ouais, donc FAQ, donc je sais pas si je vais refaire ce format ou pas, mais en tout cas là, ça m'a donné cette idée parce que sur donc le canal privé que je vous invite à rejoindre d'ailleurs, parce que là-dessus, bah, je partage un peu plus ma vie privée, je partage des offres, les coulisses de la vie en pause, d'autres réflexions, enfin je fais des mini-podcasts, je vous partage des liens, enfin bref, il y a plein de trucs. Alors c'est gratuit, hein, c'est un canal privé sur Telegram, je l'ai construit à la base parce que je faisais beaucoup de stories sur Instagram. J'en fais toujours pas mal, mais quand je faisais des stories, je parlais beaucoup. Et en fait, des fois, c'était des stories à rallonge, genre j'arrivais presque à 100 stories par jour. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi, je peux pas faire ça. C'est pas possible. Et surtout que je parlais beaucoup et qu'à un moment donné, voilà, faut pouvoir les écouter. Enfin, le format n'était pas du tout adapté. Et en plus de ça, Instagram bug. Je sais pas si c'est encore le cas, mais j'ose plus vraiment faire des stories où on me voit et où je parle pendant un moment parce que ça bug beaucoup. Donc je me suis dit, bon, franchement, de toute façon, j'ai juste un message à faire passer. On n'est pas obligé de me voir. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais créer ce groupe Telegram, ce que je connaissais déjà un peu via le CATS que j'ai créé. J'avais déjà fait un groupe. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça. En fait, ça permet en plus entre vous de pouvoir échanger, de mettre des commentaires. En fait, vous pouvez même faire des audios, vous pouvez écrire, enfin voilà, vous pouvez envoyer des photos, enfin partager des liens. En fait, vous pouvez faire la même chose que moi sous les posts que je mets. Donc, je trouve ça super bien comme format, j'aime beaucoup. Et en fait, je vous ai donc, et des fois, je fais des sondages. Du coup, là, je vous ai posé la question, enfin, je vous ai donné un petit exercice. Genre, c'est quoi vos questions du moment? Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête? Quelles sont vos problématiques du moment, etc. Et du coup, l'idée, c'est que je lise ces questions et que j'y réponde. Donc, c'était pas du tout prévu comme ça à la base. C'était censé me donner juste des idées de thématiques, mais en fait, je pense que ça peut être intéressant que je vous réponde, en fait, tout simplement. Après, je sais pas si j'aurai les réponses à toutes vos questions. Et puis, il y a des choses qui méritent, comment dire? Parce que là, forcément, je vais y répondre un peu en surface. Globalement, je vais pas pouvoir vous donner, avoir un vrai échange avec vous et discuter pendant des heures, des jours, je ne sais pas, et aller en profondeur ou en détail sur le sujet. C'est souvent des questions qui sont. C'est intéressant d'ailleurs de voir ça, c'est que c'est souvent des questions, en fait, qui sont assez profondes et assez. Sur lesquelles on pourra donner une réponse aujourd'hui, mais en fait ça évolue. C'est-à-dire que c'est des questions qui vont être souvent assez globales sur votre vie et qui sont importantes. En fait, c'est des questions qui sont super importantes et qui peuvent nous perturber, notamment par rapport au travail. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues par rapport à l'emploi, par rapport au travail, par rapport aux études, par rapport à l'entrepreneuriat. Enfin voilà, donc je pense que je vais rester un peu dans cette thématique. Parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup un peu l'équilibre vie pro, vie perso. En fait, en soi, moi je pense que je vais. Enfin, en donnant ma réponse, ce ne sera pas vraiment une réponse qui va vous convenir personnellement, ça va être compliqué, je vais partir de mon témoignage, en fait, de mes réflexions, de mon témoignage, comme je fais d'habitude. Et donc, pour vous apporter éventuellement des idées, des. Je sais pas, si ça peut vous parler ou pas. Donc voilà, et du coup voilà, c'est ça qui est ressorti. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais lire vos questions et je vais tenter d'y répondre. Alors, attendez, est-ce que du coup je suis sur mon téléphone en même temps que j'enregistre et en même temps, il faut que je regarde sur le Telegram. Ok, alors c'est parti. Donc il y a Letty qui pose la question, je suis en plein diag d'un TDAH et depuis toujours je me demande comment les gens font pour aimer la routine au sens large du terme et pour rester dans un emploi pendant plus d'un an. Alors Letty, comment te dire que je te comprends à 1000% parce que hier d'ailleurs je discutais avec une femme autiste sur Instagram et en fait du coup elle par chance entre guillemets ou par... Enfin, en tout cas, dans sa façon de fonctionner aussi, je pense que ça fonctionne comme ça. En fait, elle est graphiste. Et en fait, elle a toujours été très très douée dans ce qu'elle faisait. Je pense que peut-être qu'elle savait déjà ce qu'elle voulait faire depuis un moment. Je ne sais pas, je ne veux pas parler à sa place, mais voilà. Et en fait, après son diplôme, je crois qu'elle avait 20 ans, de ce qu'elle me disait hier, elle a trouvé un poste en fait directement et elle a toujours travaillé dans ce domaine et elle s'épanouit vraiment. Là, dans le taf où elle est, ça se passe super bien. Bon, elle n'habite pas en France, elle habite au Luxembourg. Mais elle m'a dit d'ailleurs que ce n'est pas forcément pareil. Mais en tout cas, voilà, c'est un travail dans lequel elle s'épanouit. Je peux comprendre parce que le graphisme, enfin voilà quoi, c'est hyper stimulant au niveau des sens. Ça demande d'avoir un cerveau quand même plutôt créatif, beaucoup même. Enfin bref, il y a tout un tas de choses. Et en fait, voilà, et du coup, moi je me disais, mais oh, comment t'as fait quoi? Parce que mon parcours scolaire et mon parcours professionnel, enfin, je dis chaotique, mais bon, c'est un petit peu peut-être exagéré de dire que c'était chaotique, mais en tout cas, bon, je vais parler de mon ressenti. Moi, je l'ai ressenti comme étant vraiment chaotique, dans le sens où je vais pas reparler toute ma scolarité, de mes emplois, mais en gros, enfin, j'ai fait je sais pas combien de métiers, quoi. Bah, attendez, je vais vous lire la conversation d'hier, enfin. Là où j'ai expliqué ce que j'avais fait comme métier. Alors, du coup, je suis sur Instagram. Et en fait, cette femme, du coup, me demande, bah, et toi, quels a été tes 1000 jobs, les principaux? Bon, ça a été dur pour moi de dire les principaux parce qu'en fait, ils sont tous un peu à la même échelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Puis vu que je crois que je suis restée le maximum de temps, c'était 1 an et demi dans la même boîte. Non, c'était 2 ans, mais pendant mes études, donc j'y travaillais en dehors de mes cours, et pas l'été. Donc ouais, bref, en tout et pour tout, je pense 1 an et demi maximum dans une entreprise. Et je sais que pour certains, même au bout de 6 mois, c'est compliqué. Bref, et du coup, et même moi. Donc en fait j'ai expliqué, du coup j'ai dit bah écoute, j'ai été vendeuse en boulangerie, j'étais serveuse et barmaid dans un concepteur atypique, j'étais conseillère en images, donc ça c'était en indépendante, j'ai été chargée de recrutement, j'étais commis cuisine, j'étais assistante de production événementielle, j'étais assistante administration des ventes, j'ai été photographe et funnel designer, bon ça c'était en. Enfin c'est deux métiers différents, mais c'était enfin depuis que je suis entrepreneur quoi. J'ai aussi été enquêtrice transport, j'ai été bah, du coup maintenant créatrice de contenu pour personnes autistes. Et puis bah, d'autres trucs, mais là pour le coup c'est genre des missions intérim, des machins comme ça. Bref, et en fait tout ça pour vous dire que je comprends Letty qui dit que voilà, elle comprend pas forcément comment font certaines personnes pour aimer la routine au sens large et pour rester dans un seul et même emploi. Alors, de mon côté, bah, comme vous avez vu, c'est super compliqué et ça a été très compliqué. Mais en fait, je pense que il y a bah, forcément, à mon sens, hein, un lien étroit avec la façon dont on fonctionne, qu'on soit au potentiel, TDAH, autiste, enfin neuroatypique, etc. Surtout dans les fonctionnements, en fait, où on a un cerveau qui est ultra. C'est une machine à idées, quoi, ultra créatif. Qu'on peut être assez dispersé aussi, qu'on peut être assez impulsif, qu'on peut avoir du mal avec l'autorité par exemple, qu'au niveau sensoriel, on peut être très distrait, facilement distrait. Donc, je sais pas, moi, travailler dans un bar ou dans un magasin, ou. Enfin, là, je prends mon exemple hein, du coup, parce que je connais pas votre vie à vous, mais voilà, je donne des exemples. Ou travailler dans. Enfin, des choses comme ça qui en fait qui demandent même des open space, j'avais déjà fait aussi, mais c'est l'enfer parce qu'en fait, moi je sursautais tout le temps, déjà par rapport au téléphone par exemple, ou par rapport à bah, en fait plein de petits bruits un peu dispersés aux allants, enfin un peu partout quoi, des bruits que je connais pas ou des trucs qui me surprennent. Ou alors au niveau visuel, pour vous dire par exemple, quand je travaillais en boulangerie pendant mes études, eh ben, c'était vraiment horrible. J'avais des migraines, hein, des migraines ophtalmiques, je sais pas si vous connaissez. Et en fait, j'étais obligée de mettre pause là. Et en fait, j'avais des migraines ophtalmiques et du coup, j'avais... Bah, en fait, avant les migraines ophtalmiques, j'avais des auras, ce qu'on appelle des auras. Donc, en fait, bah, je voyais plein de petites étoiles, en gros. Et j'avais la vision complètement bah, troublée, quoi. Et c'était très, très, très particulier. Et en fait, c'était dû au néon, parce que je travaillais dans un centre commercial. Donc, vous imaginez l'enfer. Mais bon, à l'époque, je savais pas, quoi. J'avais 20 ans... C'était mon premier boulot, vraiment, enfin, en tant qu'étudiante en dehors de chez mes parents et tout ça, c'était mon premier vrai boulot. Et voilà quoi, je travaillais dans un, bah, dans un centre commercial, mais du coup sans lumière, parce que c'était un étage en dessous, enfin bon. Donc pas de lumière, que des lumières artificielles. Et dans la boulangerie où j'étais, il y avait des néons en fait au-dessus. Donc j'entendais le grésillement des néons, mais ça je pensais que tout le monde c'était comme ça. Et ça me gênait, mais le pire, c'était la lumière, en fait. Parce que du coup, bah, ça j'étais très sensible au niveau visuel, mais et la chaleur des néons. Ça me dérangeait. Et en fait, je savais pas que c'était pour ça, mais du coup, j'avais fait plusieurs crises pendant ces années-là, en fait. Et j'avais été à l'hôpital, j'avais été voir un neurologue, j'avais été voir un ORL, non pas un ORL, un ophtalmo. Un ophtalmo, enfin j'avais vu pas mal de personnes différentes, j'avais même un ami qui était médecin à l'hôpital de Rennes et du coup il avait regardé, etc. Enfin, et en fait il me disait, mais madame, il n'y a rien quoi, il y a juste un œil qui, je sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit, c'est de l'hypermétropie je crois, enfin, qui est un petit peu plus lent, pardon, plus lent que l'autre. Voilà. Et du coup, ben, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas pourquoi là, je suis partie ailleurs. Bref, et du coup, ben, j'ai pas pu. Oh là, je bug. Désolée. J'ai pas pu. Qu'est-ce que je disais? Ben, j'avais trop mal, quoi. Ah oui. Par rapport au fonctionnement et à l'emploi. Bah, et donc, bah, on s'est bien connu quand même que les personnes TDAH sautent un peu d'un job à un autre, mais notamment parce qu'il manque de dopamine. Et que bah, on est plus sujet, je dis on, je m'inclus dedans, mais je suis pas diagnostiquée TDAH, je le rappelle. Mais j'ai des doutes me concernant, mais voilà, j'ai pas envie pour l'instant d'entamer de démarches ou quoi. Je fais mes petites recherches de mon côté, je sais juste qu'il y a certaines choses qui me parlent dans le TDAH. Et notamment par rapport à la... Et ça, je l'ai vraiment, comment dire, expérimenté, on va dire, ces derniers mois. C'est le manque de stimulation. Donc après, on en parle aussi dans nos potentiels, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un truc comme ça où quand je suis pas assez stimulée, et j'ai pas assez de dopamine, je pense que j'en sécrète clairement pas assez. Et une sérotonine ou de mélatonine, des trucs comme ça qui m'empêchent de dormir. Enfin bon, bref. Je pense que tout est lié. Hein. J'ai pas de preuves pour l'instant avec ça. J'observe juste comment je suis au quotidien. Et en fait, je pense que c'est pour ça que je peux faire, par exemple, des fois un peu des achats compulsifs. J'ai des grosses crises boulimiques, un peu. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin, en tout cas, j'ai. Comment s'appelle le terme? Bah, en tout cas, je me rive. Vers la nourriture sucrée pour avoir des sortes de shots de dopamine en fait. Enfin bon, j'ai un peu des sortes de comportements un peu addictifs à certaines choses et je me lasse très 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 vite des choses et parfois même des gens et ça c'est très chiant et notamment ben, des emplois etc. Donc en fait, pour moi la routine en fait avant que je prenne, enfin que je pense à l'autisme etc. Alors, excusez-moi, il y a tout qui s'en mêle. C'est parce qu'en fait, je me souviens que j'avais, il y a 2 ou 3 ans, je sais, 2 ans, que j'avais, pour moi, enlevé de ma tête l'autisme me concernant parce que je considérais que je n'avais, je n'aimais, enfin, j'étais pas dans la routine, justement au sens large, que j'étais pas du tout là-dedans et que pour moi, la vision de l'autisme, c'était bah, une personne qui fait tout le temps la même chose. Etc. Enfin bon, bref. En fait, du coup, j'avais complètement écarté ce truc-là parce que je me suis dit, mais la routine et les rituels, ça me parle pas. Et en fait, c'est après, ça s'est fait progressivement, du coup, en douceur, heureusement. Enfin, plus ou moins, mais je veux dire, Il y a d'abord eu le haut potentiel et ensuite l'autisme. Et donc heureusement que tout n'est pas tombé dans, je veux dire, en même temps. Parce que ça a été assez compliqué. Et en fait, l'autisme, j'ai compris, mais ça c'est par le biais de l'extérieur aussi, hein, que en fait j'avais énormément de. Enfin, je ritualisais énormément les choses. Et qu'en fait j'avais beaucoup de routines que je ne voyais pas. En fait, tellement c'était. Intégré, enfin ancré, et que du coup je ne voyais pas. Déjà j'ai beaucoup de règles, beaucoup de routines, mais surtout beaucoup de rituels en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sens dans ce que je fais. Il y a des fois je me dis mais une espèce de superstition, enfin un peu le sentiment, vous voyez, quand vous passez sous une échelle et certaines personnes disent non et tout parce que tout de suite ils vont avoir une superstition, mais en fait moi, dans les rituels, si je les fais pas, je me sens pas bien, quoi. Donc il y a un espèce de truc comme ça où j'en ai vraiment, vraiment besoin pour mon équilibre et pour me permettre de m'apaiser, de m'ancrer. Enfin, bref, j'ai compris un petit peu l'utilité de tout ça et ce pourquoi je le faisais en fait naturellement et que j'avais pas capté que je faisais ça. Mais bon. Mais par rapport à la routine. Au sens large, dans ce qu'on imagine avec la personne qui, bah, comme mon meilleur ami par exemple, qui peut travailler 8 heures par jour, tous les jours, des fois plus, à faire des appels, à être assis sur son bureau toute la journée, à faire que ça, à pas vouloir forcément trop bouger. Il a eu deux, enfin, il a eu un emploi salarié dans sa vie et le reste, ça, il a eu enfin, deux intérêts, deux passions en fait, qui, bref, sur lesquels il est tout le temps. Et moi je me dis mais je peux pas être comme ça en fait. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que j'ai des rituels et des routines dans mon quotidien qui me permettent mon propre équilibre. Par contre, en fait dans ma routine, comment expliquer? Ça va être difficile à expliquer. En fait dans ma routine, il faut que je puisse être libre. C'est-à-dire que là, je pense avoir trouvé mon équilibre, je sais pas encore. Parce que ça tend tout le temps à changer, mais justement. Mais dans mon équilibre actuel, j'ai trouvé une espèce de supercherie pour un peu, comme on dit, mindfucker mon cerveau. En fait, en gros, j'ai compris que j'avais à la fois besoin d'un cadre, des choses ritualisées. Et en même temps, j'ai besoin d'un espace libre pour pouvoir créer, justement, jongler, passer d'un truc à un autre, avoir 10 000 onglets ouverts, avoir plein de trucs où je m'éparpille et où je me sens dans mon espace à moi et où ça me rassure au final parce que sinon je me sens enfermée. Et du coup aussi, bah, ça me génère une stimulation dont j'ai vraiment besoin. Enfin, genre, c'est vital en fait. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu un post de. Mince. Comment ça s'appelle ce compte Instagram? Parler de ma vie? Parler. Ah, je sais plus. Bon, c'est un compte Instagram d'une femme autiste qui d'ailleurs a participé à mon podcast. Podcast participatif. Et en fait, elle a fait un post il n'y a pas longtemps et c'est tombé vraiment, mais genre, pile au moment où moi j'étais aussi dans ces réflexions-là. Donc j'adore quand c'est comme ça. Et où du coup elle parlait du moteur, du fait que les intérêts spécifiques pour les personnes autistes étaient un moteur, étaient hyper importantes pour leur équilibre mental aussi. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'avais compris avant, mais de façon mentale, et que là j'ai intégré. C'est-à-dire que là vraiment, je l'ai vécu. Donc je suis passée de la théorie à la pratique, quoi. Je l'ai vraiment vécu, je l'ai expérimenté. Et je me suis vraiment rendu compte à quel point avoir un intérêt spécifique, c'est ou une passion dévorante, ou deux ou trois passions, enfin peu importe. Hein, en fait, c'est avoir son taux de stimulation qui va générer derrière. En fait, c'est comme si ça va. Comment dire? Ça va. C'est comme les diesels, là. Ça va, en fait, lancer la machine. Et une fois que la machine, elle est lancée, ben, en fait, après. C'est une sorte de cercle vertueux, je sais pas comment expliquer. Donc en fait, en gros, pour moi, les intérêts spécifiques et tout ça, c'est super important pour notre équilibre. Pour moi, c'est beaucoup plus important, par exemple, que le social, mais après, chacun est différent, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est super important pour moi, mais au sein de mon intérêt spécifique, qui actuellement est le sujet de l'autisme, etc., la neuroatypie au sens large, mais bon, surtout l'autisme, hein, clairement. Et en fait, au sein même de ce truc-là, c'est devenu aussi mon activité qui, au sein de ce truc-là, c'est là où je peux créer les choses par moi-même. Donc en fait, j'ai mon espace de liberté. J'ai pas un patron qui va me dire ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Et du coup, je peux créer absolument la façon dont j'ai envie de faire les choses et la façon dont j'ai envie, comment je veux faire les choses. Et comment dire Ah, c'est super dur à expliquer. C'est qu'en fait, par rapport à. Je sens que je vais patauger là. C'est super difficile en fait. En fait, j'ai trop. En fait, je veux dire, souvent quand je bug quoi, comme ça, c'est qu'il y a trop de choses dans ma tête et du coup, j'arrive pas à choper les tout plein de trucs qui me viennent. Et donc, ça fait que du coup, soit je bug, du coup, je m'arrête ou je passe à autre chose. Mais en fait, je sais qu'il y a plein de trucs, il y a plein de. Justement, de fenêtres ouvertes au sein de mon ordinateur, donc de mon cerveau, et elles sont pas refermées là. Donc en fait, j'ai l'impression que ça va me faire bifurquer dans 10 000 trucs. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais, enfin l'idée principale quoi, ce que je voulais vous dire à la base. Et souvent quand je fais comme ça, je stoppe mon podcast et je réécoute. Sauf que là, en fait, j'ai pas envie parce que je préfère mettre pause. Enfin bon, bref, je commente tout en plus. Donc trouver mon équilibre, oui, donc le moteur. Et en fait, le moteur, et donc les intérêts spécifiques sont vraiment, vraiment vitaux pour les personnes autistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sécrète, à mon sens, le taux de dopamine dont ils ont besoin. Ça apaise. Je pense qu'on sécrète aussi des hormones qui réduisent en fait le stress, l'anxiété. Qui nous font du bien et qui nous recentrent, qui nous permet de nous canaliser, qui nous permet aussi, au final, en fait, d'être mieux, d'être dans une santé mentale meilleure, d'être du coup, en fait, c'est un cercle vertueux, donc plus on va être comme ça, plus on va être mieux, enfin, moins stressé aussi avec les autres, par exemple. Au sein de notre entourage, on risque d'être moins irrité, d'être moins, je sais pas, nerveux, anxieux, etc. Bref, ou déprimé aussi, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que le manque de dopamine crée de la dépression, et donc ça, c'est un gros, gros problème. Mais bon, je parlerai de ça plus tard dans un autre truc où vraiment, j'essaierai d'aller en profondeur par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est super important. Je pense que je ferai un podcast, en fait, dédié aux intérêts spécifiques. Voilà. Pour ça. Mais du coup, pour revenir au message de Letty, par rapport à la routine, c'est juste qu'en fait, à mon sens, on a tous des fonctionnements différents et que les personnes qui sont capables de faire ça, faut se dire que c'est comme nous qu'on soit capable de passer d'une activité à une autre, passer d'une tâche à une autre, faire des trucs, enfin, je sais pas, par exemple, des choses comme ça, ou d'avoir plusieurs emplois, ou. En fait, c'est tout simplement que c'est deux fonctionnements différents et que la personne qui est plus dans du long terme, à mon sens, c'est des personnes qui n'ont pas de problème au niveau des fonctions exécutives, hein, qui est propre au TDAH aussi, à l'autisme, sur le fait de maintenir les tâches dans le temps, donc dans la durée, et en fait d'avoir une certaine endurance. Et c'est ce que je vous ai déjà dit, je crois, mais pour moi, les personnes neurotypiques, pour la plupart en tout cas, sont des profils endurants. C'est vraiment ce que j'observe. Après, je me trompe peut-être, mais dans ce que je comprends, c'est que ce sont des personnes endurancières qui sont capables de maintenir quelque chose, une activité, dans le temps et de fonctionner étape par étape, donc de façon linéaire, plus séquentielle, alors que des profils au potentiel, le TDAH, etc., avec une pensée arborescente et tout ça. On ne sait pas pour rien qu'on les appelle les multipotentiels ou multipassionnés, etc. C'est que vraiment maintenir notre attention sur quelque chose, maintenir les tâches dans le temps, C'est compliqué. Et on a besoin de dopamine, donc, comme je disais, on n'en sécrète pas assez, donc on en recherche à l'extérieur, et donc on a besoin d'être stimulé. Et donc on peut passer du coq à l'âne, on peut passer d'un truc à un autre, et être assez distrait ou éparpillé. Mais je vais pas trop justement m'éparpiller sur ce sujet, parce que je pense pareil, ça fera l'objet d'un autre podcast. C'est hyper intéressant. Parce que, à mon sens, l'éparpillement n'est pas forcément quelque chose qui doit être vu de façon négative. C'est souvent ce que l'extérieur nous montre. On va dire que c'est la projection de l'extérieur, donc je sais pas moi, de votre employeur ou de vos parents, de la société. Enfin, en fait, oui, la projection de leur peur, de leur croyance, etc., sur nous, comme quoi nous sommes éparpillés, et du coup, en gros, ça sous-entend quoi dans leur croyance, hein, ça sous-entend qu'on n'est pas fiable, ça sous-entend qu'on est instable, ça sous-entend que t'as un truc, mais de connotations super négatives. Et alors, moi, à mon sens, c'est pas... je dis pas qu'il faut tout transformer en positif, mais c'est juste de regarder un seul et même trait de personnalité, par exemple, une même caractéristique, sur les deux plans, en fait. Enfin, de pas voir notre éparpillement comme quelque chose de genre, je cherche le mot, mais genre de rédhibitoire, quelque chose de une finalité, en fait, quelque chose qui nous définit, c'est terminé, on est comme ça, et puis on a pas de chance, etc. À mon sens, il faut comme quand vous regardez un cube, on sait rien, un Rubik's Cube avec toutes les faces, bah là, l'idée c'est de regarder tout autour qu'est-ce que l'éparpillement veut dire, qu'est-ce que ça m'apporte aussi de choses quand même dans mon quotidien qui sont positives, parce que là, comme je vous ai dit, bah en fait, ça fait qu'on a des profils qui sont curieux, par exemple, qui ont plein d'idées tout le temps, on est une machine à idées, on a vraiment, comment dire, des facultés pour conceptualiser, par exemple, je sais pas, pour justement connaître plein de choses sur plein de trucs différents, de pouvoir discuter de tout, de pouvoir être passionné dans ce qu'on fait, enfin, bon, voilà, en fait, c'est juste de trouver aussi, c'est toujours ça, hein, c'est de trouver, en fait, le côté qui peut nous handicaper, qui peut être compliqué, et de trouver des solutions, mais aussi de comprendre que c'est nous, en fait, et que du coup ça fait partie de nous, c'est une facette, en fait, et que du coup ça peut être bien de l'utiliser, de voir le côté bénéfique et de l'utiliser à bon escient pour son propre épanouissement, parce qu'en fait ce qui est problématique là-dedans, à mon sens, c'est le regard des autres, c'est les projections des peurs et des croyances des autres sur nous, alors que, en fait, et du coup, ça fait une forme de rejet et de non-acceptation de qui on est, hein. Moi, je suis d'accord, c'est très difficile à vivre, mais justement, en fait, c'est lorsque l'on s'assume soi-même, lorsque l'on se connaît, etc., et qu'on fait ce travail sur nous-mêmes, et qu'on accepte, en fait, toutes ces parties de nous, en fait, du coup, ça se fait naturellement. Il y a un lâcher-prise qui se fait, mais il y a aussi une l'affirmation de soi, le positionnement, en fait, qui se fait de lui-même. Et c'est là qu'en fait on peut, face aux autres, s'affirmer, se positionner et dire non, je ne suis pas d'accord, ou non, ça ne me plaît pas, ou non, tu ne me respectes pas, ou non, tu ne m'aimes pas pour qui je suis, c'est ton problème, c'est pas le mien. Si y a des choses qui te dérangent chez moi, ce n'est pas mon problème, en fait, c'est ton problème. Et en fait, ça, c'est vraiment une phase un peu d'acceptation de soi, et du coup de positionnement, de tri aussi, parce que parfois, en fait, on se rend pas compte, mais il y a des personnes qui sont pas forcément bonnes pour nous. Il y a des personnes qui le sont, mais qui en fait n'ont pas toutes les clés non plus pour... qui sont encore dans le jugement, en fait. Et ou qui ont des peurs et des croyances, et ça, à mon sens, il faut communiquer avec ces personnes s'il y a une réelle envie d'avancer, d'échange, mais si de son côté... Enfin, il faut que ça aille dans les deux sens, quoi. Si, si du côté de la personne, il n'y a pas de volonté d'échange, d'aller vers l'autre, enfin, d'accepter l'autre, de connaître l'autre, ben, c'est une relation à sens unique et ça peut devenir toxique en fait. Même si la personne est bien, enfin, est gentille en soi, qu'elle n'est pas quelqu'un qui veut nous nuire ou quoi, mais la relation peut être assez toxique pour nous parce que ben, on n'est pas dans un environnement bienveillant et sain pour pouvoir s'épanouir personnellement en fait. Je suis partie trop loin. Mais voilà, pour répondre à ta question, Letty, donc c'est juste d'accepter, en fait, ouais, enfin d'accepter, en tout cas de voir qu'il y a deux fonctionnements et que du coup, bah nous, on est plutôt des personnes qui s'éparpillent, qui font plusieurs métiers différents. Et en même temps, bah, moi là, je constate que ça fait plus d'un an que je suis dans la vie en pause. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que si la vie en pause ne remplissait que une partie de mes besoins, ça n'irait pas. Là, en fait, je pense avoir trouvé quelque chose qui m'épanouit dans le sens où, un, je suis entrepreneur, donc c'est vraiment, c'est vraiment ce vers quoi, enfin, ça fait partie de mes besoins par rapport à tout un tas de trucs, hein, mes valeurs, etc. Deux, bah, je peux créer librement, je crée mon propre truc, je crée mes propres outils. Et trois, c'est sur mon intérêt spécifique en fait. Et du coup, c'est un intérêt, l'autisme, qui est tout le temps, enfin qui est constamment en évolution et autour duquel il y a énormément de sujets qui s'y greffent. Donc en fait, je pourrais partir, mais dans tous les sens quoi. Comme mes podcasts. Et du coup, en fait, je pense qu'on peut trouver un équilibre au sein même d'une même activité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, c'est que j'ai une activité, mais je gravite autour. C'est que si je parlais que de l'autisme H24, je pourrais pas. J'ai besoin aussi de parler de haut potentiel, de TDAH, des comorbidités, de tous les sujets qui sont autour, mais aussi sur Instagram, bah, vous voyez bien que parfois je dévie sur d'autres trucs, quoi. Et je vous parle des fois de spiritualité, de créativité, je sais pas quoi, d'astrologie, enfin des trucs qui me passionnent. Et je vais pas m'arrêter à un sujet quoi, parce que c'est pas, ce serait pas, je serais pas équilibrée. Donc en fait là, c'est juste que j'ai trouvé un truc auquel je peux en fait me disperser. C'est ça, c'est d'avoir trouvé le truc sur lequel je peux me disperser. Donc et de creuser aussi parce que du coup c'est un truc qui évolue tout le temps et auquel il y a beaucoup d'informations qui, voilà. Bref, donc là ça fait 36 minutes. Bon, j'ai répondu qu'elle était, c'est pas grave. Je ferai un autre podcast du coup, ce sera l'occasion. Donc je vais quand même répondre à une autre personne. Et puis voilà. Alors il y a Aude qui dit: je suis diagnostiquée, je perçois l'allocation adulte handicapée, je ressens beaucoup de culpabilité de ne pas travailler et en même temps je me sens incapable de gérer une vie de famille et un emploi. Je me demande si beaucoup d'entre vous ont un emploi. Avez-vous trouvé un équilibre tout en travaillant? Si vous aviez la possibilité de ne pas travailler, le feriez-vous? Alors c'est super intéressant. Je vais être obligée de relire parce que j'ai pas compris ce que j'ai lu. Je m'excuse. Du coup, faut que je le relise dans ma tête. Ouais, bah je pense qu'en fait, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Par contre, sa dernière question est super intéressante. Parce que sinon j'y ai répondu en fait globalement sur l'équilibre. Alors pas au niveau de la vie de famille, parce que moi je n'ai pas de vie de famille, donc mon équilibre va plus se faire au niveau bah, amical, social, enfin quand même j'ai un équilibre social. Ça je peux vous en parler un peu, ouais. Mais cette question, si vous aviez la possibilité de ne pas travailler, le feriez-vous? Alors déjà, je me suis déjà posé cette question et je la trouve super intéressante. C'est que si j'avais la possibilité de ne pas travailler, non, je le ferais pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le travail aujourd'hui, c'est pas du travail. C'est-à-dire que, ben, je vous en ai déjà parlé un peu, mais pour moi, déjà, le mot travail a une connotation pas top top, hein. C'est vraiment le truc dans la difficulté, la souffrance, la labeur. Les mots sont importants pour moi, mais voilà. Et du coup, travailler. Souvent, même hein, au sein de l'inconscient collectif, un peu, c'est vraiment quelque chose qui est pas très positif en fait. Genre, putain, ouais, moi je sors de mon travail, là j'ai travaillé 40 heures, là j'ai fait ça, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, je travaille dur et tout. Moi je suis sortie de ça dans le sens où je suis plus dans une philosophie, si je peux appeler ça une philosophie, hein, de. Enfin, j'ai enlevé en tout cas la croyance de il faut travailler dur pour réussir. Enfin, des choses comme ça. Des choses qui en fait avaient des enfin, qui étaient quand même super difficiles. Et en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que ça n'est plus ma croyance. Et que pour moi, au contraire, travailler est un synonyme, enfin c'est pour ça que j'aime moins utiliser ce mot travail, mais bon, c'est pour me faire comprendre. Travailler pour moi est synonyme de joie, en fait. C'est-à-dire que je prends plaisir à faire ce que je fais. Et en fait, à partir du moment où je le vois comme un travail dans le sens négatif, bah c'est là où je me mets une pression. C'est là où je me sens pas bien. C'est là où je me sens enfermée. C'est là où je me sens jugée, où je sais pas trop quoi, et où je suis stressée. Mais dès que je me détends par rapport à ça, et que j'enlève cette croyance, et que je remets la croyance de mais le travail, en fait, c'est une source de plaisir, c'est une source de stimulation, c'est une source de satisfaction. Aujourd'hui, j'aide des gens, aujourd'hui, je suis utile. Aujourd'hui, je peux créer, aujourd'hui, je peux faire ça, etc. Voilà, je vous parle de mon vécu, hein, de ce que je traverse, mais c'est vraiment ce truc où, du coup, j'ai trouvé un équilibre au sein même de mon activité et que je n'ai absolument pas besoin de travailler 10 heures par jour. Moi, 2-3 heures par jour me suffisent parce que j'ai trouvé une organisation qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à travailler comme ça et en fait, j'avance beaucoup plus vite. Mais ça, je vous en parlerai aussi dans un podcast séparé. Par rapport à mon organisation de travail, je sais que ça intéresserait beaucoup de gens. Donc voilà, je pense que j'en parlerai plus en détail dans un autre truc. Mais en tout cas, si j'avais la possibilité de ne pas travailler, je le ferais pas parce que je ferais quoi de mes journées? Enfin, vu que mon travail, c'est mon intérêt spécifique et je kiffe ce que je fais, bah en fait, je le ferais quand même. C'est-à-dire que si j'avais la possibilité de pas faire ce travail, mais je le ferais parce que, enfin, en gros, ça voudrait dire si j'avais. La question à se poser aussi, c'est est-ce que si ce travail. Enfin, est-ce que si c'était gratuit, est-ce que je le ferais aussi? Bah oui, parce que je kiffe trop. En fait, c'est ça aussi, je pense, quand on a vraiment trouvé son truc, et c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Et peut-être que dans 6 mois, je ferai autre chose. Hein. Peut-être que je me lasserai, peut-être que je ferai plus ça. Et j'accepte ça aussi. Ben, en fait, c'est de se dire, est-ce que aujourd'hui j'ai kiffé ma journée? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai kiffé mon job? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai aimé ce que j'ai créé, ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai fait pour moi? Ou est-ce que je l'ai fait pour les autres? De quelle façon je l'ai fait pour les autres? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que moi, dans mon travail, vu que. Ça a été un truc supplémentaire que j'avais jamais eu avant. C'est qu'en fait, aujourd'hui, j'aide des gens. Enfin, c'est-à-dire que je me sens utile. C'est-à-dire que le travail que je fais aujourd'hui a un sens. Et en fait, c'est beaucoup pour ça, je pense, que je déprimais. C'est que dans mon métier de photographe, j'étais très stimulée. Enfin, ça me remplissait sur beaucoup de besoins que j'avais. C'était vraiment génial. Mais il n'y avait pas un sens profond. Et là, je sens que ben, ça m'aide parce qu'il y a un sens vraiment profond et qu'en fait, j'ai compris que j'avais un besoin de partage, donc j'ai une grosse, grosse valeur de partage, donc de partager et d'aider les autres, d'être utile. Et en fait, c'est ça qui me crée mon propre bonheur aussi. Donc, du coup, ça crée mon équilibre. Donc, en fait, parfois, quand on est rivé sur les autres et qu'on fait du bien aux autres, moi, c'est ce que je fais quand je crée mes trucs. Je sais que bah, ça pourrait aider certaines personnes. Mais en fait, ça me fait du bien, moi. Ça me nourrit, moi, en fait. Donc, au final, j'ai trouvé mon équilibre aussi là-dedans. Mais ce n'est plus un truc où je travaille pour les autres. C'est que en fait, je travaille. Parce qu'avant, quand je disais je travaille pour les autres, c'était quand je sais pas, j'étais salariée ou même quand j'étais photographe, bah, j'avais un client, il y avait une commande et je travaillais pour eux, quoi. Et ça a été rare les projets où je travaillais avec. Et là, j'ai ce sentiment qu'en fait, je travaille avec. Et que je ne suis pas au-dessus et je ne suis pas en dessous. Il n'y a pas de hiérarchie. Du coup, pour moi, c'est ça, c'est le truc de. de collaboration, de collectivité, de co-co-co. Et c'est super important pour moi, en tout cas, pour mon propre équilibre. Donc je sais pas si ça va vous parler, hein, ce que je vous dis, je vous parle, comme je vous ai dit, je vous parle de mon témoignage, de mes réflexions. Mais ça peut-être pas forcément vous parler. Et par rapport à l'équilibre vie de famille et emploi, en fait vie pro, vie perso, ben du coup moi donc comme je disais, j'ai pas de famille, c'est plutôt le côté social, donc mes amis et mes parents. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai juste redéfini. Ah ouais, je pourrais vous montrer ça, ouais. Mes priorités. En fait, je me suis fait une espèce de petit graphique. Un petit dessin. Vous voyez les camemberts? Bah voilà, j'ai fait un petit camembert, un petit rond, avec différentes parties, et par rapport aux différentes sphères qui sont... enfin, dont j'ai besoin autour de moi. Et en fait, le pourcentage de mes besoins, c'est-à-dire par exemple le travail, donc qui pour moi n'est pas vraiment un travail, ben on va dire la vie en pause, ben en fait ça me prend, c'est ce qui me prend le plus de temps, pour vous dire dans ma vie, hein, pour vous dire à quel point ça me passionne. Donc ça, j'ai mis je sais plus combien de pourcentage, bref, j'ai mis un certain pourcentage, mais c'est ce qui était le plus présent. Ensuite il y avait le côté plus personnel, donc en fait des choses que je fais pour moi. Ensuite il y avait un côté plus, donc ça va être le bien-être, etc., enfin tout un tas de petits trucs que pour moi, vraiment quand je suis toute seule. Ensuite il y avait le spirituel, ça j'ai trop besoin. Donc où je vais regarder, je sais pas, des vidéos d'astrologie, ou je vais être plus dans, je sais pas, dans à regarder des vidéos de physique quantique, de développement personnel, etc. Ben, ça j'en ai besoin pour mon équilibre aussi psychique. Et du coup, ben, j'ai mis un certain pourcentage. Et ensuite, il y a eu la vie sociale, et ensuite il y a eu la vie amoureuse. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie sociale, c'était... genre 10%, genre, enfin, par rapport à tout ce qu'il y avait autour, c'était genre 10 ou 15%, je sais plus. Mais ça me convient comme ça, parce qu'en fait c'est moi hein, qui décide de ces pourcentages. C'est un constat aussi, mais... Et du coup je me suis dit, mais... Ben voilà, en fait, je sais juste que c'est ce pourcentage-là que je veux mettre dans ma vie par rapport au social. Parce que j'ai pas besoin de plus et je ne veux pas moins. Pareil pour les trucs, les relations amoureuses. Bah en tout cas, là c'est un graphique que j'ai fait pour en ce moment. C'est quelque chose peut-être que je reverrai dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Parce que c'est quelque chose qui évolue. Mais par exemple, les relations amoureuses, actuellement, c'est 5%. Genre, c'est pas du tout ma priorité. Genre, c'est vraiment le dernier de la liste, en gros, quoi. Mais je suis ok avec ça parce qu'en fait, c'est pas... En ce moment, j'ai besoin d'une stabilité, d'un équilibre dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, et d'avoir voilà, un peu de social à côté. Et, et d'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'amis, hein, j'en ai que quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une main, du coup ma famille, mes frères et sœurs et tout ça que je vois de temps en temps. J'ai pas, d'ailleurs, le social, fait, on peut mettre aussi dedans les appels téléphoniques. Je sais pas, au niveau de la fréquence, moi j'appelle très peu mes parents, on est très peu en contact, enfin voilà, c'est ok. Et ça, je me sens beaucoup plus libre en fait. Mais c'est une période peut-être que dans 6 mois, ce sera différent en fait. Tout bouge. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et après, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais après, pour ceux, voilà, ça, pour ceux qui ont déjà une famille, je peux pas vraiment donner mon avis par rapport à ça. Mais peut-être d'essayer de se poser, en fait, et de voir comment vous pouvez vous organiser entre la famille et un potentiel emploi. Mais je pense que c'est pas... Enfin, on peut définir ça à partir du moment où il y a des questions un peu plus profondes qui se sont posées, quoi. Parce que quand on... Parce que si on a une croyance de l'emploi, comme quoi, voilà, c'est... Enfin, des croyances limitantes, en fait. Ça peut être compliqué. Ou même par rapport à la famille, c'est-à-dire des croyances limitantes comme de devoir des choses à sa famille, d'être... de devoir être présent pour eux, de façon... Je sais pas comment dire. En fait, de culpabiliser quand on n'est pas... quand on n'est pas trop avec eux, par exemple, ou de culpabiliser quand on fait une crise, ou de culpabiliser quand... Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Donc c'est peut-être de redéfinir un petit peu ce que vous cachez derrière la famille et ce que vous cachez derrière l'emploi. Quelles sont les croyances qui se cachent derrière? Quels sont, en fait, vos besoins qui se cachent derrière? Quelles sont aussi les limites à pas dépasser? Enfin, mais ça, ce que j'expliquais au tout début du podcast, c'est des choses, c'est des questions, en fait, qui sont tellement profondes, tellement globales, tellement importantes aussi, en fait, ce qui est normal. Mais c'est des questions qui sont sur la durée. Et du coup, effectivement, je sais plus qui en parlait après, mais il faut de la patience. Parce qu'en fait, c'est des choses qui se font petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des réflexions de la théorie et à la fois de l'expérimentation, de la pratique, et c'est la vie en fait. C'est juste, on peut pas que théoriser ou que penser, il faut aussi acter les choses, tester des choses, répondre à des opportunités, dire non à des choses qu'on ne veut plus, dire oui à des choses qu'on a envie de faire depuis un moment et on sait pas, on veut pas commencer, bah commencez aujourd'hui, faites un petit truc, une petite étape, en fait c'est ça. Et je comprends que parfois c'est contradictoire avec la façon dont on peut fonctionner parce que, et moi c'est ce que je m'étais beaucoup dit aussi, c'est que moi j'ai du mal à fonctionner de façon linéaire et à voir les choses dans la durée et à me projeter sur du trop long terme. Du coup j'ai une vision souvent une vision qui est pas claire et qui est pas bien définie et qui est ambiguë et qui est floue et qui est dans un futur très proche en fait et qui ne va jamais très très loin. Mais en fait j'ai compris derrière qu'il y avait d'autres trucs qui se cachaient, des peurs, des blocages, etc. Et qu'en fait aussi la croyance de me dire que je déteste fonctionner par étapes et que j'arrive pas à maintenir les trucs dans le temps. Et du coup, c'est pas facile quand on... Enfin, c'est pas facile du coup d'accepter que les choses bougent et que les choses avancent progressivement et que c'est un peu des façons de petits poucelles avec les cailloux blancs, c'est des petits cailloux blancs, des graines qu'on sème petit à petit et ça, c'est pas évident parce qu'on voit pas les résultats tout de suite. Et souvent, je pense que, d'autant plus dans nos fonctionnements, mais je pense que ça vaut pour tout le monde en vrai, ce truc où on voit une montagne, le truc, on voit une montagne en fait de trucs à faire. Et en fait, on n'apprécie pas le chemin, mais on veut tout de suite, tout de suite en fait. Et donc on a une forme d'impatience, et après on se dévalorise parce qu'on n'arrive pas à faire les choses. Parce qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas les résultats visibles tout de suite. Parce que ça vient en fait au fur et à mesure. C'est progressif. Et je vous dis ça, mais franchement, pour moi, c'est vraiment pas facile parce que je suis en plein dedans, je suis en pleine expérimentation de tout ça. Et du coup, pour l'instant, ça va. Mais je me rends compte à quel point ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a un objectif assez... je préfère utiliser le mot intention. Quand on a une intention assez forte, quand on a une volonté ou en tout cas une vision un peu plus claire des choses, et pour ça d'ailleurs, pour avoir cette vision claire, il faut quand même se poser pas mal de questions, creuser, noter, écrire, faire des bilans, travailler sur soi, etc. Mais bref, quand on a une vision en fait plus claire, les choses arrivent d'elles-mêmes par l'extérieur ou avec des révélations intérieures par exemple, ça arrive tout seul en fait, et des fois moi ça m'étonne un peu, mais en fait je pense que c'est une forme de un peu de loi universelle, de trucs beaucoup plus subtils. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction, etc. Moi je pense qu'on est un peu là-dedans, c'est-à-dire que après sans vous, enfin c'est mes croyances hein, donc voilà, mais c'est vraiment de comprendre que lorsqu'on a une intention et on a un objectif clair, c'est-à-dire qu'on sait dans quelle direction on va, en fait c'est ça une intention, ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention d'ailleurs, mais c'est vraiment, en fait les choses après se matérialisent, elles arrivent, elles se rendent visibles progressivement par rapport à ce que à ce que l'on émet comme intention. Et quand je dis émettre une intention, c'est vraiment émettre... En fait, une intention, ça a une vibration. C'est comme, je sais pas moi, quand vous pleurez, enfin les émotions, voilà, c'est des vibrations en fait. Quand il y a quelqu'un qui est en colère à côté de vous, vous le ressentez quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe, ça fait bouger vos cellules. Il y a tout qui vibre d'une certaine façon, c'est pas forcément très agréable d'ailleurs. Et ben l'intention, c'est quand on pose une intention, en fait, il y a vraiment, on incarne une vibration de ce qu'on souhaite en fait. C'est comme si on était déjà en train d'incarner le truc, on pense à fond au truc qu'on a envie, et voilà. Et ça peut, bah, vous pouvez être surpris après de ce qui peut se manifester dans votre vie, c'est-à-dire que, mais après ça vous contrôlez pas quoi, c'est des trucs extérieurs, des événements extérieurs, des opportunités, des machins, même des obstacles, hein. Ça peut être des échecs, ça peut être des trucs pas forcément positifs, mais pour atteindre cette intention. Voilà, et là je suis en train d'expérimenter ça et je trouve ça ouf en vrai, parce qu'il y a une espèce de côté un peu magique entre guillemets, mais c'est juste parce que c'est subtil, c'est des choses qu'on ne voit pas, et c'est pour ça que je vous dis que souvent on reste focalisé sur ce qu'on voit et ce qui est visible. Et voilà, et du coup quand, comment dire, par rapport à ce que je disais précédemment et que j'ai oublié, bah, ce sont des choses que l'on ne voit, que l'on voit. Bon, je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Ah, mais je sais pourquoi. Il est 13h26. Faut que j'aille manger, en fait. Et de toute façon, ça fait un moment que je parle. Mais voilà, je pensais vraiment pas que j'allais partir dans cette thématique, dans ces sujets, dans cette réflexion. C'est ça qui est chouette. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Je sais qu'il y a... Certaines d'entre vous, parce qu'il y en a deux auxquelles je pense, voire trois, qui se sont lancées dans les podcasts. Je trouve ça génial. Donc, bon, n'hésitez pas à le faire hein, si vous en ressentez le besoin. Et si vous ne le faites pas de façon publique, à le diffuser publiquement, faites-le pour vous. Parce qu'en fait, parler comme ça à son téléphone, moi, j'ai personne en face de moi, j'ai pas d'auditoire là. Heureusement, sinon, j'arriverais même pas à enchaîner deux mots. Je serais complètement bloquée. Et tellement dans l'anxiété que du coup ma tête ça me ferait un gros blackout. Et mais du coup je disais quoi? Et entraînez-vous, c'est pas ça que je voulais dire, c'était que vous pouvez parler en fait comme ça à votre téléphone, enfin juste de faire des audios. Et en fait juste de vous laisser guider par je sais pas, enfin juste parler. En fait, comme une ce qu'on appelle l'écriture spontanée. Bah là, on va dire, c'est, je sais pas comment on appellerait ça, hein, le nouveau concept de l'oralité spontanée. Enfin, ouais, parler spontanément. Et en fait, c'est ouf parce que ça dénoue des choses qui sont à l'intérieur de vous. Et comment dire, le fait d'extérioriser, c'est une autre façon de comprendre des choses, d'intégrer des choses. Je sais pas comment expliquer. Est-ce que ça va souvent de l'intérieur vers l'extérieur, l'extérieur vers l'intérieur? Ça passe des deux côtés, mais là je parle de vraiment extérioriser les choses, pardon, le verbaliser en fait, fait que du coup derrière vous pouvez avoir des réponses. Voilà. Des réponses. Et des fois, bah, au lieu de poser des questions dans votre tête, testez de le faire spontanément à l'oral. Je vous assure que c'est complètement différent. Parce qu'en fait, les pensées, enfin, quand on parle à l'oral, ça va pas aussi vite que nos pensées. Vous aurez constaté que du coup, moi, je bug pas mal parce que j'ai plein de pensées et que du coup, il y a plein de fenêtres ouvertes et que blablabla. Mais là, l'idée, c'est de extérioriser, donc de verbaliser, de parler, en fait, à voix haute, à votre téléphone, sans jugement. En fait, il y a personne qui vous regarde, sans jugement, vraiment juste pour vous. Ça va vous faire peut-être bizarre au début, d'ailleurs. Mais après, vous allez vous habituer. Et en fait, il y a des trucs qui ressortent, comme l'écriture spontanée, parce que c'est pareil, c'est de l'extériorisation. Mais l'écriture, le problème, c'est que ça peut être assez lent. Là, le fait de parler, ça peut être un petit peu plus rapide. Après, ça dépend. Hein. Ça dépend de qui. Il y en a qui écrivent super vite et qui extériorisent sur l'ordinateur, qui peuvent taper beaucoup plus vite que parler. Ça peut arriver, clairement. Mais bon, en tout cas, un moyen de pouvoir extérioriser ce que vous pensez. Et en fait, les choses se dénouent et ouais, ça fait une... C'est... Comment dire? ça se structure d'elle-même. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si ça part dans tous les sens, c'est pas grave. Mais juste, ça se dessine tout seul. Et parfois, on a des réponses. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à dire à voix haute votre problématique du moment et de vous parler tout et de parler à voix haute en fait, de parler tout seul. Je vous assure que bah, tout le monde va vous dire, va vous prendre pour une folle ou un fou. Non, je plaisante, mais faites-le juste pour vous, voilà, sans jugement. Et c'est hyper puissant parce que du coup, bon là moi c'est un exercice différent parce que je le fais, je m'enregistre et c'est vous. Enfin, il y a plusieurs personnes qui m'écoutent quand même. Donc c'est un autre, on va dire que c'est un peu un niveau. Au-dessus parce que je sais que j'avais mis un an à le faire, c'était trop compliqué, mais justement j'ai commencé par faire ça seule chez moi, je me suis habituée à ma voix, je me suis habituée à parler et tout, et puis en fait après j'ai commencé le podcast, ça a été vraiment une grosse bascule. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez le hashtag zéro, genre j'étais complètement j'étais pas à l'aise quoi, et après ça s'est dénoué aussi, et donc en fait ça m'a refait prendre confiance en moi aussi pour pouvoir parler, tout m'exprimer, libérer la parole et tout, mais franchement c'est vraiment pas un exercice qui est simple. Mais du coup, surtout, j'ai enlevé la barrière du jugement des autres, du regard des autres. En mode, ben, vas-y, c'est pas grave, je me lance, quoi. Et je trouve ça moins difficile que sur YouTube ou sur Instagram, par exemple, parce qu'en fait, il n'y a pas de feedback. Enfin, il y en a, on peut en faire, mais il n'y en a pas, vous n'êtes pas obligé, en fait, sur les podcasts. Et du coup, ça peut être plus simple, parce que quand on est vraiment très très sensible au jugement des autres... Ben, ça peut être assez destructeur parfois quand on reçoit, je sais pas moi, des trucs pas très agréables ou quoi, qu'on n'a pas forcément les épaules. Après, ça fait partie du chemin, j'ai envie de dire, mais voilà, ça peut être un bon exercice en tout cas déjà de vous à vous-même, chez vous, pour avoir des réponses à certaines de vos questions. Ben, du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis ben, je continuerai la liste des questions. Du coup, peut-être que ben, y en aura d'autres. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Parce que ça, je vous ai dit, ça parle beaucoup d'entrepreneuriat, de travail, etc. Donc je pense que déjà, j'ai peut-être pas mal parlé ouais, de choses par rapport aux autres personnes qui ont posé des questions. Voilà, voilà. Bon, bah je vous laisse du coup. Ça fait 1 heure, c'est parfait. Et je vais aller manger. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, ben, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao! Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.